Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte l'histoire de Ginette Colinca, que je tire de son livre qui paraît chez Grasset, Retour à Birkenau. Ginette est déportée à Birkenau en avril 1944. Elle fait partie des survivants. Et pendant des décennies, elle n'a rien dit à personne. Elle a aujourd'hui 94 ans et elle sera là tout à l'heure. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je suis né à Paris, le 4 février 1925. Mon père avait un petit atelier, il vendait des imperméables. Ma mère était au foyer, elle était illettrée, ma mère. Elle était née en Roumanie. On ne vivait pas dans le luxe, hein, mais on ne manquait de rien. On n'était pas pratiquant, on n'avait pas les moyens d'acheter les places assises à la synagogue. Et quand on croisait d'autres juifs dans la rue, si par hasard ils se mettaient à parler yiddish, on leur disait « Parlez français ! Parlez français !» On ne voulait pas se distinguer comme maintenant. On voulait s'assimiler. J'ai 14 ans quand la guerre éclate. Au début, mon père nous envoie en province, par mesure de sécurité. Et puis on revient à Paris. Et jusqu'en 1942, on vit presque normalement. Figurez-vous que l'amoureux de ma sœur aînée a réussi à nous faire entrer au Racing Club. On a juré nos grands dieux qu'on n'était pas juifs. Et là, on apprend le handball. C'est le nouveau jeu à la mode. J'ai un peu honte de le dire aujourd'hui. Mais j'étais heureuse, insouciante. À partir de 1942, tout bascule. Mes sœurs ne peuvent plus travailler. Mon père doit céder son atelier. On doit porter l'étoile jaune. On n'a plus le droit d'aller au jardin, ni à la piscine, ni au cinéma. Bon, pour vous dire la vérité, quand des copains m'y invitent, je planque mon étoile et j'y vais. Et on reste à Paris. Et quand on nous demande de nous faire recenser, on y va. Mon père prétend qu'on n'a rien à craindre. On est français, hein? Moi, j'ai fait la guerre de 14. Qu'est-ce que vous voulez qu'on craigne? Un soir, on frappe à la porte. Bonjour. Je suis venu vous prévenir. Je travaille à la préfecture. J'ai vu passer un dossier, on vous a dénoncé. Il paraît, monsieur, qu'une de vos filles cache des gens. Je vous mets en garde. Vous êtes juif, vous êtes communiste. Vous devriez quitter Paris. Il y a un café au carreau du temple où on trouve des passeurs et de quoi fabriquer de faux papiers. Mon père ne veut pas qu'on parte tous ensemble, alors je pars avec mes sœurs, Sophie et Lucienne. On prend le train pour Angoulême et je manque de me faire pincer à l'arrivée. Contrôle d'identité. Et bêtement, j'ai gardé ma carte du Racing avec mon vrai nom. Je suis si fier, j'ai pas pu m'empêcher de l'emporter. Heureusement, avec mes sœurs, on réussit à l'avaler en petits morceaux. Finalement, on échoue en Avignon. On raconte qu'on est d'origine russe et de religion orthodoxe, que ma mère ne supporte plus le climat parisien. Personne sans doute ne nous croit. Le 13 mars 1944, je me souviens, il faisait très beau. J'arrive à la maison, je vois des hommes de dos dans le salon avec des manteaux de cuir. La Gestapo. Ils emmènent mon père, mon frère et mon neveu dans la cuisine. « T'es habillé, vous ?»« Ah !» Vous êtes juifs, tous les trois. Ils sont circoncis. Et donc, ils nous emmènent, mon père, mon frère, mon neveu et moi. Mais pas ma mère, qui est souffrante au premier étage, ni mes sœurs qui sont au marché. L'attraction nous attend en bas. Et elle nous conduit à la prison d'Avignon. Et le lendemain, à la prison des Baumettes, à Marseille. Et 15 jours plus tard, à Drancy. Drancy, franchement, je n'en garde pas un mauvais souvenir. Depuis Avignon, je me suis fait une copine, Marceline. On est dans la même chambrée. Et comme une imbécile, je crois que nous allons dans un camp de travail. J'y crois jusqu'au bout. Et le 12 avril 1944, au soir, on nous annonce qu'on part demain, à 6 heures du matin. On nous amène en autobus jusqu'à la gare de Bobigny. Quand on arrive à la gare, il n'y a plus de policiers français. J'entends des cris, des ordres, des hurlements. Schnell ! Schnell ! Schnell, c'est le premier mot que j'apprends en allemand. On nous pousse jusqu'au quai. Et là, je vois un train de marchandises. Je pense qu'il va partir, qu'un autre train va arriver pour nous. Dans le wagon, on ne se quitte pas. Papa, Gilbert, mon petit frère, mon neveu et moi. Je n'ai pas peur, hein. Je pense qu'on va travailler dans des champs ou à l'usine. Comment ai-je pu ne me douter de rien ? Des soldats sautent dans le wagon. Ils nous poussent. Il y en a qui veulent prendre leur sac, leur maigre bagage. Mais non, les valises restent là. Sur le quai, les chiens aboient.
On va s'amener à pied au camp. Mais le camp est loin. Il y a des camions pour les plus fatigués.
Je m'entends encore crier à mon père. 61 ans, maigre. Et à mon petit frère qui n'a que 12 ans. Papa ! Gilbert ! Prenez le camion ! Je ne les embrasse pas. Et ils disparaissent. Ils disparaissent. Je reste sur le quai avec mon neveu, aveuglé par les lumières.
Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre.
Je veux prendre mon neveu avec moi, il n'a que 14 ans, c'est encore un enfant. Mais il s'est fait des copains à Drancy, il veut rester avec eux. Et lui non plus. Je ne l'embrasse pas. On se met donc à marcher. J'apprends qu'on est à Birkenau, en Pologne. Et soudain, j'aperçois des fumées, au loin. Ça doit être la fumée des usines. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui travaillent, là. Mon Dieu, comme elles sont maigres. On dirait des folles. Des folles avec des yeux perdus, enfoncés dans les orbites. Il doit y avoir un camp d'aliénés dans les environs. On marche un kilomètre, on tourne à gauche, on entre dans un bâtiment. Il y a des tables sur un côté et derrière des femmes.
Déshabillez-vous.
J'ai un chandail en laine. Je l'enlève. Et puis, ma robe. Et je reste en combinaison, mais c'est encore trop. Alors j'enlève ma combinaison. On dort ensemble avec mes sœurs toutes les six. Je ne les ai jamais vues nues. Je dégrafe mon soutien-gorge. Je fais glisser ma culotte. J'essaye de cacher mon sexe d'une main, mes seins de l'autre.
Avancez vers la table !
Une femme me saisit le bras et elle me tatoue le matricule 78 599. Il y en a qui hurlent de douleur. Mais moi, je ne sais même pas si ça fait mal, tant j'ai honte de ma nudité. On nous dirige vers une autre salle. Et là, des femmes nous rasent la tête et les poils du sexe. Qui sont ces femmes ? Ce sont des Polonaises ? Des Allemandes ? Madame, mon fils est monté dans un camion. Où est-il ? Madame, j'ai donné mon enfant à ma mère. Quand est-ce que je vais les revoir ? Et là, il y en a une qui balance.
Vous voyez la fumée dehors ? Ce sont les corps de vos familles qu'on brûle.
Personne ne les croit. Enfin, comment voulez-vous les croire ? Moi, je ne les crois pas. Elles disent ça parce qu'elles nous jalousent, surtout nous les Françaises.
Tous ceux qui sont montés dans les camions sont allés dans la chambre à gaz. Ils ont été assassinés, madame, et brûlés.
Je ne les crois pas. Mais je sais. Je pense plus qu'à ça. On nous pousse vers les douches. Pas de savon, pas de serviette, juste quelques gouttes d'eau froide. Et après, on nous jette des haillons à la figure. Je tombe sur une espèce de combinaison, un pull au vert, une jupe en tricot. Pas de chaussettes, pas de bas, pas de culottes. Une femme me retourne et elle me peint une grande croix dans le dos. Et elle m'emmène avec les autres dans une grande baraque. Une baraque où il y a des femmes assises côte à côte, à perte de vue, en train de faire leurs besoins. Un alignement de fesses. Et au milieu de tout ça, la responsable du bloc qui fait sa popote. Elle cuisine dans cet enfer de puanteur. Et après, c'est à nous de nous asseoir. Moi-même, je raconte, je le vois. Et je me dis, est-ce que c'est possible d'avoir vécu ça? Mais vous, mais qu'est-ce que vous voyez? Jusqu'ici, nous étions des humains. Nous ne sommes plus rien. On entre dans la baraque de quarantaine, avec une succession de niches en bois, comme ça, sur trois niveaux. La Blokova nous sépare brutalement par petits groupes. Nous sommes 18, nous allons dormir à 6 par étage, tête bêche, encastrées les unes dans les autres. J'ai les pieds sales d'une fille dans la figure. Mais je m'endors tout de suite. Je ne pense ni à mon père, ni à mon frère, ni à mon neveu. Je tombe. Une nuit sans rêve.
Debout !
La Blokova a allumé les lumières. Il est 3h30 du matin. On a 3 minutes pour récupérer nos guenilles. Je cherche mes vêtements à tâtons. Je ne suis pas prête. Schlag ! Schlag ! Je sens la crosse qui me brise les os. Les premiers coups que je reçois de ma vie. Et aussi la dernière fois que je me déshabille avant d'aller dormir. Et nous voilà dehors, alignés comme des revenants. Chaque rang doit être complet. Tout le monde doit répondre à l'appel, même les malades et même les morts. Quand une copine n'est pas bien, on la porte, on la tient. Elle n'a pas le droit d'être assise ni couchée. Les mortes, on les traîne. La première morte, on la respecte. On est ému, on n'a jamais vu ça. On l'attrape par les pieds, par les bras, une fille devant, une fille derrière. Après, on n'a plus le temps pour respecter les morts. La première fois que je me suis réveillé à Birkenau, j'ai vu des tas de chiffons au coin de la baraque. C'était les mortes de la nuit. L'appel est fini. C'est l'heure du café. On est 5 par rang, 5 pour une seule écuelle. Alors on se la passe. Celle qui a une grande bouche est avantagée. À partir de la 3e, il faut aspirer le plus vite possible. La dernière commence à avoir peur, elle sait qu'elle n'aura peut-être rien. Pour la soupe, c'est le contraire. Il vaut mieux se retrouver à la fin. On peut espérer récupérer un morceau au fond du tonneau, un bout de patate qui surnage. À chaque moment, on peut venir nous chercher pour une corvée. Par exemple, porter des pierres. Je fais équipe avec Aimé, une Marseillaise. Charger les pierres sur un plateau, le porter à deux, décharger. Alors quand c'est trop lourd, j'en enlève une ou deux, parfois trois ou quatre. Et là, une soldate se met en colère en allemand. Et Aimé. Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Je te comprends pas. T'as pas à nous parler comme ça. Et bam, sur l'arcade sourcilière. On ne connaît pas encore les règles. Ne pas regarder dans les yeux. Ne pas répondre. Moi, j'ai décidé de me faire la plus petite possible. De ne jamais me révolter. De tout accepter. Une tranche de pain de mie de quelques centimètres d'épaisseur. Et une petite plaque de margarine. C'est le repas du soir de tous les jours. De tout le monde. Avec une fois par semaine, un supplément. Une petite tranche de saucisson. Par le bouche à oreille, j'ai entendu qu'il y avait un marché noir. Ça se passe entre deux baraques, après l'appel, juste avant le couvre-feu du soir. Celles qui ont quelque chose à troquer, le tendent à bout de bras. Qu'est-ce que tu me donnes? Il n'y a pas de tarif. Si trois personnes veulent la même chose, la vendeuse le cède au plus offrant. Chaque ordre qu'on nous donne est un coup. On nous bat tout le temps, toute la journée, pour rien. J'ai même plus mal, mais je surveille mes plaies. J'en ai plein qui percent la peau. Elles peuvent s'infecter, elles peuvent devenir des abcès. Et là, inutile d'aller à l'hôpital, hein. Leur premier réflexe est de nous renvoyer. Et le deuxième, de nous tuer. À l'hôpital, il y a des sélections tous les jours pour la chambre à gaz. Alors on dit qu'il y a de l'ammoniaque dans les urines et que ça sèche les plaies superficielles. Je fais comme ça. Ça fait longtemps que je suis à Birkenau. Au moins 6 mois. Tous les dimanches après-midi, il y a un contrôle. Ils ont peur de la gale et des poux. On se met toutes nues. Et ce qu'on découvre en se déshabillant est inhumain. Je n'ai que la peau sur les os. Mais ça n'est rien à côté des autres filles. Des squelettes. Elles n'en ont plus pour très longtemps. On vit dans la peur perpétuelle des sélections. Toutes celles qui sont au bout, et donc inaptes au travail, sont jugées inutiles. Un dimanche, j'ai des boutons plein le corps, mais je ne me gratte pas. Hein. Je l'explique aux soldats. C'est gale, ça. Gale. La gale en août, c'est la mort. En septembre aussi, mais en novembre, on ne me tue pas. On me transporte au bloc des galeux pour être badigeonné. Et après 2 ou 3 jours d'observation, on me renvoie au travail. Je creuse un fossé. Il pleut des cornes. Le sol est liquide. J'ai de la boue partout. Ma chance dans cette histoire, c'est qu'en janvier 1945, les nazis quittent Auschwitz-Birkenau pour échapper à l'avancée des alliés. La marche de la mort, 56 kilomètres dans un froid glacial, moins 20, moins 30 degrés. Mais moi, ils me mettent dans un train. Où allons-nous? Je dors pendant tout le trajet, un trou noir. Ensuite, nous traversons un petit village à pied et nous arrivons sur un grand terrain où sont installées 2 gigantesques tentes. Le camp de Bergen-Belsen. Et là, nous sommes livrés à nous-mêmes. Il n'y a plus de soldats. La première nuit est un hurlement. On est des milliers couchés là, sur la terre gelée, dans le noir. Quand le matin se lève, rien ne se passe. Un jour, 2 jours, on ne travaille pas. On ne nous nourrit pas. Je suis tombé malade juste avant de quitter Birkenau. Alors pour ne pas me vider sur mes voisines, je sors dans la nuit. C'est interdit. Mais je m'accroupis où je peux, dans la pénombre. Et là, j'entends une ronde. Je me jette dans un fossé. Je n'ai pas vu qu'il était tapissé de barbelés. Fin février, on apprend qu'une usine d'aviation près de Leipzig a besoin de main-d'œuvre. Nous voilà donc dans un train. Sur place, c'est le paradis. De vraies baraques. De vraies chambrées, de vrais lits, un gros poêle pour chauffer la baraque et tout au fond une salle d'eau. Pendant 3 mois, de février à avril 1945, avec une Hongroise, j'aide un vieil Allemand à badigeonner des plaques de métal et à les porter sur l'établi. Un matin, on doit partir. Les alliés ne sont plus très loin. Alors on nous met dans un train qui s'arrête sans cesse. Un jour, 2 jours, 3 jours, on est affamé, on est assoiffé, il n'y a aucun endroit pour se laver ou pour faire ses besoins, rien. Je vois des poux qui sautent d'un crâne à l'autre. Et tous les jours, il y a des mortes. Et moi, j'en ai une, de morte. Elle est tombée sur mon épaule. Mais je la garde, parce que je me dis qu'un jour, ils vont bien finir par ouvrir cette satanée porte pour nous donner à manger quelque chose. Et alors, je leur dirai, « Ah mais non, elle dort, ma copine !» Donnez-moi sa part. Voilà où j'en suis. Voilà ce que je suis devenu. Je me souviens de l'arrivée. On nous regarde. On nous parle gentiment. On est à Theresienstadt, en Tchécoslovaquie. Le camp vient d'être libéré par les Russes. Un médecin touche mes bras, mes jambes, Ça me fait très mal. Et j'entends le mot typhus. Et après, je tombe dans le néant. Trois semaines plus tard, en mai 1945, j'apprends dans un semi-coma qu'un camion part cet après-midi pour la France. C'est ma dernière chance. Alors je me hisse dans ce camion. Un peu plus tard, on me met dans un avion. Et le 30 juin 1945, me voilà à Lyon. Et là, une fille se penche sur moi.
T'es pas une fille, cher Kaski, toi ?
Si.
Ta mère et tes sœurs sont à Paris. Elles sont vivantes. Elles habitent l'appartement que vous avez laissé.
Je prends le train pour Paris avec d'autres déportés. Gare de Lyon, je veux rentrer chez moi. J'ai pas le droit. Je dois d'abord aller à l'hôtel Lutetia pour un interrogatoire. Des questions. Encore des questions. Je saute dans un bus. Direction chez moi. J'arrive, la porte cochère de l'immeuble n'est pas fermée. Dans la cour, la concierge me prend pour mon frère.
Oh Gilbert ! Oh ben monte vite mon Gilbert, ta mère t'attend !
Je traverse la cour, je grimpe l'escalier en colimaçon. C'est ma mère qui ouvre. Elle me regarde. Est-ce qu'elle pleure ? Je sais pas, moi je pleure plus. Elle m'installe sur le canapé au fond du séjour.
Demain, ma chérie, on va me donner des nouvelles de papa et Gilbert. Et là, moi, j'ai cette colère qui monte, qui gronde. Je lui réponds comme on crache. On peut pas te donner des nouvelles de papa et Gilbert, maman. Ils ont été gazés dès leur arrivée. Et leurs corps ont été brûlés.
Maman n'a pas refait sa vie. Elle est morte avec eux. Mes sœurs arrivent, une par une. Est-ce qu'elle me pose des questions ? Ben non. Que voulez-vous demander à quelqu'un qui a vécu ça ? Elles m'embrassent et elles me disent
« Oh, tu vas voir, il y a plein de nouvelles chansons qui sont sorties depuis que tu es parti. »
Et elles m'apprennent « Le petit vin blanc. » Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnets quand les filles sont belles du côté de nos champs. À la première visite chez le médecin, je me déshabille, je monte sur la balance. L'aiguille tremble et elle se stabilise sur 26 kilos. J'ai 20 ans. Je ne parle jamais de ce qui s'est passé là-bas, ni à ma famille, ni à mes amis. Et quand on me demande, je dis
« Si un jour j'ai un enfant et que ça recommence, je vous le dis tout de suite, je l'étrangle de mes propres mains. »
Je n'ai jamais rien dit. Pas même à mon mari. Je n'ai jamais dit à mon fils ou à un de mes petits-enfants « Mange, si tu savais où j'ai été. » C'est grâce à Steven Spielberg que j'ai commencé à parler. Après la liste de Schindler, il a créé une fondation pour recueillir des témoignages. Ça m'a forcé à y repenser. Je suis retourné à Birkenau, 55 ans après.
C'est pas ça, hein ? C'est pas ça, c'est pas le camp que je vois. Je ressens rien. C'est un décor. Je ne reconnais rien. Rien du tout.
J'espère que vous ne penserez pas que j'ai exagéré, au moins.
La musique de la liste de Schindler, Ginette Kolinka, pour terminer ce récit. Donc le camp de Birkenau que nous pouvons aller visiter aujourd'hui ne ressemble à rien de ce que vous avez connu. Rien.
Mais naturellement, c'est un décor. Pour les déportés, Birkenau, qu'est-ce que c'est ? C'est l'odeur de cette fumée qui était là tout le temps, l'odeur, on ne sait pas ce que c'est au début, mais c'est l'odeur des corps brûlés qui imprègne tout le camp. C'est la saleté, il n'y avait pas d'eau, on ne se lavait pas. Maintenant, on a presque des tapis pour pas qu'on se salisse les chaussures. C'est un terrain marécageux. On était la plupart du temps dans la boue. On nous a fait creuser des fossés, des refossés, justement pour assainir cet état du sol. Mmh. Je dis aux personnes qui m'accompagnent, fermez les yeux. Imaginez la fumée, l'odeur. Vous entendez les cris. Ça grouille. Il n'y a pas un petit endroit où il n'y a pas un groupe qui est en train de creuser, de courir pour porter quelque chose. On ne voit plus ça. Comment les personnes qui viennent pour voir ce camp peuvent croire ce que les déportés racontent?
C'est-à-dire que pas un seul endroit dans le camp, aujourd'hui, vous vous dites, j'ai touché cet endroit à l'époque, j'étais là, par exemple, votre couchette, cette bannette où vous étiez assis.
Ça, c'est encore... Les baraques, elles sont exactement comme elles étaient. J'ai l'impression qu'ils les ont reconstruites, mais avec des mesures un peu plus grandes. Parce que quand on était 6 dans la koya, il y en avait 3 devant, 3 dans le fond. À 3, nous étions serrés. Et là, j'ai l'impression qu'avec leurs mesures, on aurait presque pu être les 6 côte à côte. Alors, c'est vrai que les souvenirs, on peut les transformer. En tous les cas, ce qui est dit, j'espère que vous me croyez. Oui, c'est ce que je dis aux personnes. Ça peut être un peu déformé, les souvenirs, tout ça. Mais vraiment, Birkenau, il n'y a que ceux qui ont passé par là qui peuvent en parler exactement.
Vous allez là-bas maintenant, donc, avec des lycéens, depuis une quinzaine d'années. Et vous venez de raconter que vous leur dites de fermer les yeux, parce que c'est le seul moyen de réaliser qu'il y a des morts sous les pieds. Qu'est-ce qu'ils vous disent, eux? Vous écrivez dans le livre qu'ils vous demandent si vous avez connu Hitler.
Oui, ça c'est dans quand je vais témoigner dans les salles, dans les classes. Beaucoup, beaucoup, c'est ça la question. Est-ce que vous avez connu Hitler? Hitler certainement se promenait pas dans les camps de concentration.
Et
moi,
j'ai connu Hitler quand
j'allais au cinéma et que je voyais les actualités.
Et vous leur dites, il n'y a qu'une seule chose à vous dire, c'est la faim. Vous ne pouvez pas imaginer comment on a eu faim.
On a eu faim, on a eu soif, on était sale. Et c'est maintenant seulement que je réalise à quel point je devais être sale. Je ne me vois pas en train de me laver à Birkenau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devait être crasseuse. Pas sale, mais crasseuse. Et dans mon souvenir, je ne vois pas les gens sales devant moi. Mais on devait l'être tous.
Alors évidemment, ce qui reste stupéfiant pour nous, Ginette Colinca, c'est que dans cette société où les gens se plaignent, où les gens se victimisent, c'est que vous n'ayez rien dit en rentrant. Vous n'avez rien dit à votre famille, vous n'avez rien dit à votre mari, vous n'avez rien dit à votre fils pendant plus de 50 ans. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Quand j'étais jeune fille, on faisait des repas de famille. J'avais un beau-frère qui, après le repas, comme ça, toujours recommençait à nous parler des histoires de ses copains de régiment. Et je voyais tout le monde lever les yeux au ciel. Ça y est, le blard parti. Le jour où j'ai appris dans le camp que nous étions libérés, je me suis fait une promesse, je ne raconterai jamais ce que j'ai vécu, parce que je ne veux pas ennuyer les gens à répéter la même chose. Et j'ai tenu promesse. Alors, il y avait cette raison, je ne voulais pas ennuyer les gens. Et il y avait aussi une autre raison. Je suis toute seule à être revenue de cet enfer. On sait simplement que mon père et mon frère ont été assassinés en arrivant. Mais les autres, comment sont-ils morts? Mais je ne le sais pas non plus. Et moi, je sais que j'ai vu des amis. Vous savez, dans le camp, on ne sait pas. Enfin, je ne me suis pas fait tellement d'amis. Mais j'ai vu des déportés mourir sous les coups. J'ai vu des déportés mourir de faim, de soif, de fatigue. Comment les miens sont-ils morts? Est-ce qu'ils ont été tabassés, comme j'ai vu cette dame, et puis qui était tombée ou évanouie ou morte au pied de la capot? Est-ce que j'ai vu, comme cette dame qui était devenue tellement, tellement maigre, c'était un cadavre vivant. Ben, je sais pas.
Mais eux, et ils avaient vu Nuit et brouillard dans les années 50. À ce moment-là, quand ces films sortent, qui révèlent un peu au grand public ce qu'a été la Shoah, ils posent pas de questions. Vous avez, je le vois là, vous avez votre matricule toujours écrit sur bras,
oui.
Qui rappelle à leurs yeux que vous êtes passé vous aussi par là-bas. Et à aucun moment, ils font le lien entre Nuit et brouillard et votre bras.
Attention, Nuit et brouillard a été fait longtemps après notre retour. Moi, je parle de mon retour, que je n'ai jamais parlé. Quand Nuit et brouillard est sorti, naturellement, les gens disaient, c'était comme ça. Naturellement, c'était comme ça. C'était encore pire, même. Jamais il y aura assez de mots pour décrire, et je spécifie bien, ce que la haine a été pour les Allemands, la haine envers les Juifs, pour trouver ce qu'ils pouvaient nous faire, pour nous faire souffrir.
Quand il s'est agi d'écrire ce livre, Ginette, il a fallu que vous alliez chercher les souvenirs, les réveiller, ou en vérité, toutes les scènes que vous racontez étaient dans votre tête pendant toutes ces années?
Non, non. Les scènes ont été réveillées quand Spielberg a envoyé des cinéastes nous interviewer. Mais quand Marion Ruggeri est venue,
pour faire ce
elle
livre.
Avait déjà relevé des notes, elle avait déjà... Donc, j'ai répondu aux questions. Le livre a eu beaucoup de succès, alors qu'il y a plein de livres qui parlent de cette période, parce que, par le fait, les personnes me disent, quand on lit ce livre, on t'entend. Oui, elle n'a absolument rien changé de mes réponses. Le livre, ce sont mes réponses, et mes réponses, ce sont mes souvenirs.
Vous dites que vous avez mis longtemps à témoigner, aussi parce que vous êtes une femme simple. Vous avez une expression qui me fait bien marrer, vous dites « j'ai mes deux bas qui sont dans la cuisine ».
Oui, oui, j'ai pas d'instruction et je parle devant des gens qui sont supérieurs à moi. Même les élèves, quand ils sont en troisième, je peux vous garantir qu'ils ont plus d'instruction.
Ouais. Mais, et vous n'avez pas parlé alors que deux des personnes qui étaient avec vous, que vous citez dans le livre par leur prénom, je n'ai pas parlé de Simone, mais c'était Simone Veil, mais j'ai parlé de Marceline, et c'était Marceline Loridan. Au fond, elles ont parlé à votre place pendant des années, ces femmes. Et maintenant qu'elles sont parties d'une certaine manière, c'est à vous.
Moi, j'ai commencé à répondre aux questions quand Spielberg a fait son film. Et après, c'est vrai, jamais je n'aurais pensé être capable de parler devant des élèves, devant des adultes. Là, tout à l'heure, j'étais chez Dassault, c'était des ingénieurs qui étaient devant moi. Quand j'ai parlé à la télé, à une émission, je ne sais pas comment ça se fait que je ne suis pas intimidée. Là, aujourd'hui, je pourrais être intimidée, je pourrais être gênée. Non. Par contre, merci de vous entendre lire ce livre, parce que presque il me tirait les larmes, alors que moi, je ne sais plus pleurer.
Moi, il y a un passage qui peut paraître anecdotique, mais qui m'a beaucoup touché, c'est ce moment où vous racontez à quel point ça vous est difficile de vous mettre nu.
C'est affreux. C'est pas difficile, c'était affreux pour moi. C'était tellement affreux que tout ce qui s'est passé après, qui était peut-être encore pire que la nudité, puisqu'on nous a rasé les poils du sexe, les cheveux. Moi, la nudité, ça a été terrible.
Il faut se mettre, évidemment, dans l'esprit des mœurs de l'époque.
Quoi. Voilà.
Vous ne vous étiez jamais mis nu devant personne.
Je faisais du sport. Je faisais du handball. Très fier de faire du handball. On était dans les premières à jouer au handball. Il n'y avait pas de douche. Donc, on se mettait pas nus. Et même avec mes sœurs, on dormait toutes dans... On était six filles, hein. Eh bien, on dormait toutes dans la même chambre. Je n'ai jamais vu mes sœurs nues. Elles m'ont vu nues. J'étais petite, j'étais la petite dernière. Jusqu'à 10-12 ans, on me voyait nues, mais après, c'est fini. Alors, est-ce qu'on était particulièrement pudique dans la famille?
L'époque.
Peut-être que c'était l'époque.
Il y a ce passage où vous racontez que vous avez décidé de vous faire la plus petite possible, de ne pas vous révolter et de tout accepter. Ça m'intéresse de savoir si à ce moment-là vous forcez votre nature, ou si au fond, naturellement, vous êtes comme ça.
Je n'ai pas forcé ma nature. J'étais la petite dernière de la famille, ça veut dire même pas avoir l'idée j'avais pas à me révolter.
La dernière fille. La il y avait Gilbert fille. Après
il y
vous.
Avait, et oui.
Il y a eu un garçon.
Le garçon.
Après 6
7 ans après moi, enfin, un garçon est arrivé. Eh bien, j'étais la petite dernière. Moi, j'étais obéissante. Peut-être aussi que j'avais ce caractère très souple. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai été faire une corvée avec une déportée, Aimée Catan, elle s'appelait Aimée Catan. On veut la frapper. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retient la main de celle qui veut la frapper. D'abord, avant de la frapper, on le dispute. On ne comprend pas ce qu'elle nous dit. Alors, elle lui dit, bah, et puis pas d'un ton aimable, et alors, je te comprends pas, t'as qu'à me parler français, je te comprendrai, puis qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux, et puis t'es jeune, tu pourrais être ma fille. Oui, mais on n'a pas le droit. Mais ça, il n'y avait pas un mode d'emploi. Quand on est arrivé, il a fallu apprendre tout sur le tas, et ça a été vraiment très, très vite appris, je peux vous le dire, puisque à peine la première corvée, déjà, cette camarade rentre du travail avec l'arcade sourcilière ouverte, la lèvre ouverte, parce qu'elle avait reçu une gifle. Cette gifle est tellement forte, elle en était tombée par terre. Et c'était la première fois de ma vie que j'ai vu une femme battre une autre femme avec autant de plaisir. Après, on était habitués, c'était comme ça. Mais la première fois, ça fait un effet. Vous vous demandez, c'est pas possible.
Bientôt, Ginette, il n'y aura plus personne pour témoigner. Vous êtes l'une des dernières. Est-ce que ça vous fait peur qu'il n'y ait plus personne?
Non, non, il ne faut pas exagérer, ça ne me fait pas peur. Je me dis comment que ça va se passer. Je me pose des questions. Mais peur, non, je n'ai pas peur. On en parle, on n'en parlera pas. J'espère que les professeurs, je compte sur les professeurs, parce que c'est eux qui pourront parler après à leurs élèves. Et les élèves en parleront à leurs parents, et peut-être comme ça. Mais est-ce que dans, je sais pas moi...
30 ans, 40 ans.
Voilà, voilà. Vous savez, quand ma mère me parlait de la guerre de 14-18, pour moi, c'était... ça faisait 25 ans.
Oui.
Qu'est-ce que ça peut me faire, ce qui s'est passé il y a 25 ans? Alors nous, déjà, maintenant, c'est 75 ans.
Mm-hmm.
Et ils s'intéressent encore. Je me demande si vraiment les élèves ne se disent pas « Oh, c'est cette histoire, hein, c'est un peu vieux,
hein,
c'est 75 ans, vous vous rendez compte, 75 ans ?» Et puis cette vieille, elle vient nous parler de choses comme ça. Mais ils ont l'air intéressés quand même.
Ils pourront toujours lire votre livre « Les élèves du futur » et peut-être écouter cette histoire qui traînera sur Internet, dans un coin, et entendre votre voix et se souvenir de vous, Ginette Colinca. Merci d'avoir accepté de me confier vos mots. Merci beaucoup.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.